Ah, c'est la touche N. Ah, bah tu vois, je fais quelque chose comme ça. Voilà. Madame Lily était une missionnaire infirmière en Afrique de l'Ouest. Elle a contacté une maladie qui s'appelait la fièvre Lassa. Alors peut-être les Africains vous connaissez. Et son état s'est vite dégradé. Sa température est montée à plus de 40. Et les autorités locales ont demandé à ce qu'elle soit rapatriée dans son pays, l'Amérique. Arrivée à New York, pas de traitement médical. Pendant 9 semaines, sa température n'est pas descendue. Les médecins ont fini par l'entourer de glace pour faire tomber la fièvre, la nourrir par perfusion. Elle a perdu 15 kilos. Finalement, merci beaucoup Laurent, finalement, la fièvre est partie. Le docteur Casal, qui s'occupait de son cas, a dit, il faut que je trouve un traitement. Il a donc isolé le virus, l'analysé, mais à force de toucher ce virus, d'être exposé au virus, il a lui-même été atteint par le virus et son état s'est aussi dégradé. Mais Madame Pinéo, allant mieux, avait développé des anticorps dans son corps et elle a pu donner du plasma au docteur qui lui-même a guéri. Le texte qui a été lu ce matin nous dit ces choses. Nous sommes atteints d'un virus mortel qui s'appelle le péché. Et c'est le sang de Jésus-Christ, uniquement son sang, qui nous donne la vie. Nous avons entrepris, il y a quelques semaines, d'affermir ou de consolider les fondements de notre christianisme. Le christianisme, ce n'est pas un ensemble d'idées. Ce n'est pas un ensemble de pratiques. Ce n'est pas un ensemble de sentiments mis au point pour notre bien-être, par Dieu ou par les hommes. Le christianisme est fondé sur la conviction que Dieu est une réalité. On l'a eu ce matin dans les témoignages. Nous ne changeons rien à qui il est cause de l'idée que nous avons fait de lui. Dieu est un Dieu présent, un Dieu qui n'est pas lointain. Nous ne pouvons pas le façonner, lui. Il est celui qui nous façonne. Il ne nous appartient pas de décider ce que lui va faire. Il décide ce que nous allons devenir. Il a créé l'univers et il lui donne sa raison d'être et non le sens que nous voulons lui donner. Si nous lui donnons un sens différent de celui que Dieu lui donne, nous sommes des insensés. Nos vies se termineront tragiquement. Le christianisme, j'ajoute, n'est pas un jeu. Il n'est pas une thérapie, un traitement médical. Toutes les doctrines viennent de la nature de Dieu et de ce fait dans l'histoire. Elles correspondent à des actes concrets de la part de Dieu. Le christianisme comprend la foi, l'espérance et l'amour, 1 Corinthiens 13, 13. Mais les chrétiens ne flottent pas à tout vent. Ils grandissent comme des cèdres et s'appuient sur le roc de la vérité. Quand nous parlons du péché, nous en avons parlé vendredi, du péché, il est important de considérer deux choses. Et j'aimerais les dire avant que d'aller plus dans le message. La première chose, c'est que Jésus est l'être suprême. L'être qui est au-dessus, la personne la plus importante de tout l'univers. Il n'est pas plus grand que Dieu le Père. On l'a dit.
il n'est pas plus grand que Dieu le Saint-Esprit. Avec eux, il est égal. En valeur, en beauté, en sagesse, en justice, en amour et en puissance. Mais il est plus important, la Bible dit, que les anges et les démons, que les rois, que les dirigeants, que les scientifiques, que les artistes, les philosophes, les athlètes, les musiciens, les acteurs, nos contemporains ou les personnes qui ont vécu avant nous. Jésus est vraiment l'être suprême. Quand on parle du péché, on a aussi besoin de noter quelque part que toutes choses sont faites pour Christ, même le mal. Tout ce qui existe, y compris le mal, est ordonné par un Dieu infiniment saint et sage afin de permettre la gloire de Christ. Proverbes chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Ouh. Dieu fait cela à sa façon, d'une manière mystérieuse. Ne nous lançons pas dans la fabrique. Colossiens chapitre 1, verset 16 nous dit que toutes choses sont faites en Christ et pour Christ. Ceci inclut, comme le dit Paul, puissance spirituelle, domination, autorité, pouvoir, qui ont été déchus de leur puissance par la croix de Jésus-Christ. Ces deux choses sont à rentrer là. Jésus est l'être suprême. Dieu, le mal existe pour glorifier Dieu. Et ce sont deux choses qu'on a du mal à concilier, n'est-ce pas ? À se dire, mais le mal, il existe, le péché existe, mais Dieu existe. Je suis profondément convaincu que votre joie, votre force, votre sainteté dépendent de la solidité de votre affermissement en Christ. Une vision étriquée, petite, réduite, fait de nous des chrétiens étriqués, petits, réduits. Les émotions sans racines font de nous une thérapie qui sera vite balayée par les intempéries. Ceux qui resteront debout, malgré la tempête, malgré les épreuves, sont ceux qui auront construit leur maison sur le roc de la vérité de l'Écriture. Le centre de la Bible, le centre de la vérité de Dieu, à savoir Christ. La gloire, on va voir ce matin une vérité qui peut-être nous passe, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que ça va faire dans ma foi ? Et je pense qu'il y a quelque chose que vous allez découvrir. J'ai découvert cette semaine, je l'avoue. Quelque chose qu'on a un petit peu de mal à comprendre, mais qui fait tellement de bien à notre foi. Et j'aimerais le partager avec vous ce matin. C'est pas quelque chose de nouveau, hein, rassurez-vous. Je suis pas tombé sur la tête. La gloire de Jésus a été planifiée par Dieu avant la chute. On a l'impression, quand on lit la Bible, que jusqu'à Genèse, de 1 à 3, tout va bien dans le plan. Que tout se réalise parfaitement. Genèse 1, Dieu créa. Genèse, jusque tout le chapitre 1, il crée les animaux, il crée les poissons, il crée toutes les choses. Genèse 2, il répète l'action. Genèse 3, Madame Ève est là. Et elle profite que monsieur est parti à la pêche pour faire des bêtises. Et là, on se dit, ah ben Dieu, il avait un plan B. Mais quand on va lire la Bible ce matin, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas de plan B. Il y avait un plan A. Et que bien avant la chute, Dieu avait déjà planifié les choses. Et ça, c'est assez incroyable. On met l'accent en permanence sur ce Genèse 3, avec le péché spectaculaire d'Adam et Ève. Parce que je les mets tous les deux là. Hein. Comment Dieu a préparé le terrain pour la contre-attaque. Mais la gloire de Christ est l'objectif principal de Dieu lorsqu'il a planifié et autorisé le péché. Tout ce que Jésus permet, il le fait pour de bonnes raisons. Ces raisons sont toujours d'une sagesse infinie et avisée. Il n'avait pas besoin de laisser la chute. Il pouvait l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Il aurait très bien pu aussi empêcher la chute de Satan. Mais le fait qu'il ne l'a pas fait, ne l'a pas arrêté, signifie qu'il avait une bonne raison de le faire. Qu'il avait un objectif à atteindre. Donc, le péché d'Adam, la chute de la race humaine qui s'en est suivie dans le péché, la misère, n'ont pas déstabilisé notre Dieu. Elles font partie de son plan pour surmonter tout cela, pour exposer la plénitude de la gloire de Dieu. L'un des moyens les plus clairs pour montrer cela dans la Bible, sans entrer dans les détails, c'est de regarder Apocalypse chapitre 13, verset 8, c'est le dernier livre de la Bible. On va découvrir que cette vérité que je mets en toile de fond, elle est écrite là. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Ce dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau immolé. Regardez bien. C'est quoi la fin du verset? Dès la création du monde. Ce qui n'était pas, j'ai la page de couverture, je l'ai imprimé. Hein. Le livre écrit avant la Bible de Gutenberg. C'est marqué dessus, le livre de vie de l'agneau immolé. Avant la création du monde, il existait le livre. J'aimerais bien avoir les pages qui sont derrière hein, pour savoir s'il y a AR, il y a Jean-Claude Rélier. Ce qui est extraordinaire, mes amis, c'est que on a un Dieu qui n'est pas à notre image. On a un Dieu qui ne se laisse pas déstabiliser. Un Dieu qui ne change pas, qui ne regrette pas, qui n'est pas amer. Un Dieu qui, dans l'organisation de son plan, se dit « si ça marche pas, j'essaierai autre chose ». Il existait donc un livre avant la fondation du monde, appelé le livre de la vie de l'agneau immolé. Avant la création du monde, Dieu avait déjà planifié que son fils serait sacrifié comme un agneau pour sauver ceux dont le nom est inscrit dans le livre. Et c'est pas juste Apocalypse 13, 8, hein, c'est Éphésiens 1, chapitre, verset 4 et 5, 2 Timothée, chapitre 1, verset 9, Tite, chapitre 1, verset 1 et 2, 1 Pierre 1, 20. Ha! C'est pas une doctrine sortie comme ça, tiens, Jean-Claude, il a eu une idée cette semaine. Il aime bien l'Apocalypse. Lorsqu'Adam a péché, Dieu n'était pas surpris. Mais il avait déjà sa part, il avait déjà un plan pour montrer son incroyable patience. Sa grâce, sa justice. Mais il voulait montrer aussi sa haine du péché. Il voulait montrer qu'il était là pour racheter son humanité. Jusqu'au jour où il a révélé la grandeur de son fils. Le second Adam, vous avez vu tout à l'heure? On va y travailler ce matin. Le second Adam, Jésus. Adam comme l'image de Christ. Regardons premièrement verset 14, en lisant les versets 12 et 13 pour comprendre un petit peu le contexte. Donc on est dans Romains 5. Hein. C'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché, même ceux de Vigneux. Car jusque la promulgation de la loi, ou jusqu'à la loi, parce que vous n'avez pas forcément ce mot, le péché était dans ce monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel était la figure de celui qui devait venir. Ah. Adam comme la figure de Christ. On pense à Joseph, on pense à Abraham, on pense à Moïse comme des figures de Christ, n'est-ce pas? Parce que ce sont des hommes bien. Ce matin, on a célébré un homme bon, hein, Jean. Il n'était pas dans les... je l'ai pas encore trouvé dans la liste des bronzes, mais je pense que Dieu l'a rajouté ce matin, ou bien avant. Mais quand on pense à Adam comme une figure de Christ, wow, on se dit, mais il y a un problème, il y a quelque chose que je comprends pas, explique-moi. Adam est appelé une figure de celui qui devait venir. C'est-à-dire une figure de Christ. Christ devait venir. Depuis le début, Christ est celui qui devait venir. Paul montre ici que Christ n'était pas un second recours. Quelqu'un qu'on appelle au dernier moment, tiens, peut-être un remplaçant. Le premier a raté, on va envoyer le deuxième. Non. Christ a été conçu. Paul ne dit pas que Christ a été conçu pour être une copie d'Adam. Il dit qu'Adam était une figure. Dieu a agi avec Adam de telle façon qu'il devienne une figure de ce que lui avait prévu. Ah. Une figure, c'est comme un présage, comme quelque chose qui vient avant, quelque chose qui viendra plus tard, qui sera, mais qui sera bien plus grand. Dieu a donc agi avec Adam de façon à ce qu'il soit une figure de Christ. Et jusqu'au péché, ça a bien marché, n'est-ce pas? Maintenant, à quel moment, dans la file de pensée, Paul a choisi de dire que Adam est une figure de Christ? Regardez le verset 14. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Il choisit de dire qu'Adam était une figure de Christ, juste après avoir dit que toute personne qui n'a pas péché porte quand même le châtiment du péché. On a du mal à croire qu'on est pécheur, hein. La première fois que quelqu'un est venu me confronter, moi, Jean-Claude Rollier, me dire que t'étais pécheur, mais moi, j'ai pas volé, j'ai pas triché, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Et mademoiselle Salson a eu du mal à me convaincre que j'étais pécheur, malgré sa Bible. La Bible dit que nous sommes les mêmes pécheurs qu'Adam. Que nous avons désobéi, on l'a vu vendredi, que nous avons désobéi à Dieu. Le ce pourquoi nous sommes sur terre, nous en avons changé l'idée. Jésus est notre grand représentant. Le parallèle entre Adam et Jésus. Le fait qu'Adam soit appelé figure de Christ implique deux parallèles. Alors on va essayer, on va pas faire des mathématiques ce matin, mais ceux qui aiment les maths vont aller regarder. Adam égale péché. Péché égale humanité condamnée. D'accord? Vous me suivez jusque là? Vous êtes avec moi? Humanité condamnée égale mort éternelle. Ça c'est Adam. La ligne du dessous. Christ égale justice de Dieu. Justice de Dieu égale nouvelle humanité égale vie éternelle. Ha! C'est deux parallèles. Alors ceux qui ont fait des maths, il y a des jeunes, il n'y a plus de jeunes, hein? Ceux qui ont fait des maths, c'est quoi les caractéristiques de deux parallèles? Tiens Romain, un expert en mathématiques, deux parallèles, c'est quoi leur... Elles se rejoignent? Jamais. Sauf dans l'infini, je crois. Hein. Il y a une phrase comme ça. Mais... Elles se rejoignent? Jamais. Parce qu'elles restent parallèles. Adam a amené le péché et il a condamné l'humanité. Jésus a amené la justice et il a amené la vie.
Mais il a fallu qu'à un moment ça se croise. Il a fallu un moment que Christ porte notre péché. Adam était l'image, la description de ce que Dieu voulait. Et vous vous rappelez, dans Genèse, il est marqué que Dieu a considéré que cela était très bon. Bon, et quand il a créé l'homme, il a dit que cela était très bon. La création de Dieu n'était pas entachée. La création de Dieu était bonne. Christ est plus grand grâce au salut qui vient de lui. Il est bien plus grand qu'Adam et son acte destructeur. On dit que le plus grand événement dans l'humanité, c'est la chute de l'homme. Le plus grand événement dans l'humanité, c'est la venue de Jésus-Christ et la victoire à la croix. Le fait que le péché soit rentré était une chose, le fait que Jésus soit venu, que personne n'ait pu l'empêcher. Ce que nous voyons ici, c'est la révélation de réalités qui définissent le monde. La mort au travers d'Adam ou la vie au travers de Christ, c'est ça la vie. C'est ça le choix de la vie. Et j'ai du mal à croire. J'ai du mal à croire que des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, tous les jours entendent la même chose. La vie ou la mort, et qu'ils décident la mort. Comment peut-on décider de passer l'éternité, pas 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, l'éternité séparée de Dieu, alors que Dieu a payé le prix. On préfère être fils d'Adam que fils de Jésus. C'est incroyable, non? Cette infirmière, si elle n'avait pas été traitée, si les médecins n'avaient pas essayé de trouver une méthode pour la sortir, elle serait morte. Mais grâce à Dieu, elle a été sauvée. Et l'histoire ne dit pas si elle est retournée en Afrique de l'Ouest, hein, je ne sais pas. La mort au travers d'Adam ou la vie au travers de Christ. Romains 5 nous explique que nous avons un choix. Mais que ce choix nous a été offert gracieusement en Jésus-Christ. On a une vision un peu étriquée de la religion. J'ai dit en commençant que le christianisme n'était pas un ensemble de faits, qu'il n'était pas un ensemble de pensées, mais qu'il est une réalité en Dieu. Quelle est votre vision de Dieu? Un Dieu qui donne? Un Dieu qui participe? Un Dieu qu'on modèle, un Dieu qu'on change, un Dieu à qui on dicte ce qu'il doit faire, ou un Dieu qui nous donne la vie et qui nous transforme. Un Dieu qui nous permet de voir les événements de la vie comme des événements que Dieu met dans ma vie pour tester ma foi, pour évaluer si je sais ce que c'est que la grâce de Dieu. Si nous avons une vision étriquée, nous serons des chrétiens étriqués. Si nous ne regardons pas l'image de Dieu, nous allons regarder l'image d'Adam, l'image du diable. Et elle est bien plus spectaculaire, n'est-ce pas? Le diable se déguise en ange de lumière. Il ne vient pas vers nous moche, méchant, agressif. C'est intéressant parce que quand on pense au diable, hein, « Ah, c'est affreux, hideux, horrible, c'est diabolique !» Mais c'est pas ça, diabolique. Diabolique, c'est joli, séduisant, attirant, n'est-ce pas? Le péché, il vient pas en disant « Oh, c'est horrible !» Il dit « Allez, 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 fais-le, tu verras, tu seras bien après. » Non? Jésus est l'être suprême. L'être qui, dès le commencement, bien avant le péché, devait venir. Célébrer la supériorité de Christ, c'est notre vie, n'est-ce pas? L'abondance de sa grâce, la perfection de son obéissance. Regardez le verset 15. Il n'en est pas du don gratuit, celui de la justice, comme de la faute. Car si par la faute d'un seul, beaucoup sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu, le don qui vient de la grâce d'un seul homme, ont-ils abondamment été répandus sur beaucoup.
La grâce de Dieu est plus forte que la faute d'Adam. À plus forte raison, la grâce de Dieu est un don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus, parce qu'il a obéi. Ça, c'est un mot. Soumettre, obéissance, c'est démodé quand même. Hein? Maintenant, on est libre de ne pas obéir. N'est-ce pas? Une loi, c'est fait pour être violée. Hein? Soyons sérieux, disons-nous. Paul est plus spécifique que ça. Il dit, la grâce de Dieu, la grâce d'un seul homme, est le don qui vient de Dieu. La grâce d'un seul homme, c'est l'incarnation de la grâce de Dieu par Jésus. C'est la façon où Tite 2, verset 11 dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est pas dans une grâce dont on parle. C'est une grâce qui s'est manifestée. On parle de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais il y a des gens qui en parlent et il y a des gens qui l'ont. Et souvent, ceux qui en parlent le plus, c'est pas ceux qui l'ont. Mais la grâce de Dieu, elle a été manifestée en Jésus-Christ. La grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus, elle a été offerte à tous les hommes. Cette grâce est une grâce souveraine. Elle remporte la victoire sur tout ce qu'elle trouve sur son chemin. On pense que le diable est fort, hein? N'est-ce pas? Et il est fort. Mais il est enchaîné. Et la grâce de Jésus est bien plus forte. L'événement de Jésus, ce qui s'est passé à Golgotha, ce que les hommes ont voulu couvrir, cacher. Vous vous rappelez, la semaine dernière, j'ai dit que les pharisiens savaient, les ennemis de Jésus savaient qu'il devait ressusciter. Les seuls qui doutaient, c'était les chrétiens. Qui a été dire au souverain sacrificateur, bon, il faut qu'on raconte des bêtises parce qu'il va ressusciter et on va lui donner encore du crédit, alors on va déjà raconter des choses. Les disciples, ils n'ont même pas eu l'idée parce qu'ils ne savaient même pas, ils doutaient de ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand on lit la Bible et qu'on découvre que Jésus, dès avant la fondation du monde, était prévu. Mais alors, mes amis, si Dieu avait prévu toutes ces choses, pourquoi je ne les prends pas? Pourquoi les événements de la vie me déracinent tellement? Pourquoi les coups de vent, les tempêtes de ma vie me déracinent tellement alors que je sais qu'en Jésus, j'ai la solution? Non? Parce qu'on a une vue toute petite de notre Dieu. On est le Dieu qu'on va chercher quand on en a besoin. C'est nous le plan B. Nous, le plan A, c'est l'homme. Le plan B, c'est... Bon, je pourrais essayer Dieu, si ça marche. Il y a beaucoup de sœurs hein, ou frères que je rencontre, on va croiser les doigts. On croise les mains, mais pas les doigts. Les doigts, c'est le diable qui se croise les doigts. Il dit, j'espère qu'ils vont tomber. Si la faute d'un seul homme a apporté la mort, à plus forte raison, la grâce de Dieu nous apportera la vie. La vie. Jésus est l'incarnation de la grâce. Cette grâce est une grâce souveraine. Elle remporte la victoire. Elle est, deuxièmement, si elle est abondante, elle est parfaite. Parfaite dans l'obéissance. Paul célèbre la façon dont la grâce de Christ remporte la victoire. Verset 19, si vous le lisez avec moi. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, Christ, beaucoup seront rendus justes. La grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, l'empêche de pécher. Elle nous garde obéissants jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Philippiens chapitre 2, verset 8. Afin qu'il fasse preuve d'une obéissance totale. On obéit presque. On fait tout presque bien. Mais il manque toujours quelque chose. Jésus a été au bout du plan de Dieu.
il n'a pas reculé. Oh, il a crié à son père. Il a dit, papa, si tu pouvais m'enlever ça. Vous avez déjà vu quelqu'un souffrir? Sa souffrance est notre prière. À côté, on ne peut pas lui dire, Seigneur, fais-le continuer à souffrir. Seigneur, enlève-lui cette souffrance, n'est-ce pas? Jésus, quand il a prié sur le mont Golgotha, il savait ce qu'il attendait. Il savait ce qu'il allait souffrir, mais la plus grande de ses souffrances, c'était pas les clous dans ses mains, mes amis. La plus grande souffrance, c'était pas la flagellation dans son dos. La plus grande souffrance, c'était d'être séparé de son père. Papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Psaume 22. Ces paroles de David, hein, 10 siècles avant. C'est ce que Jésus a dit sur la croix. C'est ça la souffrance. Souffrance terrible. La séparation de notre Père, de celui qui nous aime, de celui qui nous donne la vie. Combien on souffre quand nos parents disparaissent, n'est-ce pas? Et plusieurs ont été touchés par ça, récemment. Disparition de son père, de sa mère, de ses frères, de ses sœurs, ça fait souffrir, n'est-ce pas? Ben, imaginez que l'enfer, c'est ça, c'est d'être séparé éternellement. Est-ce que vous avez envie de passer l'éternité dans la souffrance, dans la tristesse, dans la peine, dans le regret? La Bible dit que au ciel, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Des gens qui disent « Oh, ben, si on me l'avait dit plus tôt !» Ah ben si on me l'avait mieux expliqué, ben c'était pas clair quand il parlait Jean-Claude le dimanche. Depuis des siècles, depuis au moins 2 siècles, l'humanité tout entière atteste que la grâce est venue sur cette terre, qu'elle a été manifestée. Et les hommes et la femme n'en veulent pas et continuent de mourir en refusant la grâce de Dieu. Si nous voulons manifester l'abondance de la grâce, qu'est-ce qui nous empêche de venir à Christ? La deuxième chose, la perfection de l'obéissance. Cette perfection qui nous montre combien Christ a été jusqu'au bout. Christ, comme Adam, était lui-même une figure de Christ. Les deux représentent la tête d'une ancienne et d'une nouvelle humanité. Adam, l'ancienne, Jésus, la nouvelle. Dieu impute l'échec d'Adam à son humanité et le succès de Christ à son humanité, pas à sa divinité. On ne peut pas faire mourir Dieu. Vous avez compris ça? On ne peut pas faire mourir Dieu. Dieu est esprit, ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. On peut toujours essayer d'enlever Dieu, et on essaye dans notre pays de France depuis quelque temps, d'enlever toute racine, d'enlever toute idée. Une société laïque. La grande supériorité de Christ réside dans le fait que non seulement il réussit à obéir parfaitement, mais aussi parce qu'il le fait de telle façon que des millions de personnes sont rendues justes grâce à son obéissance. Est-ce qu'on peut imaginer que notre obéissance à Dieu dans notre vie peut impacter des millions de personnes. Et que notre désobéissance à Dieu impacte aussi des millions de personnes. On n'a pas tellement conscience quand on désobéit, n'est-ce pas, de l'influence qu'on a sur les autres. Mais on n'a aussi pas conscience que quand on obéit, quand on vit droitement devant Dieu, on impacte aussi des millions de personnes. Et que eux, ils peuvent voir Christ en nous. C'est pas notre humanité, c'est l'humanité de Jésus-Christ. Sommes-nous connectés toujours à Adam, fils de désobéissance, fils ou fille de désobéissance, qui a le droit de choisir? Ou sommes-nous devenus ces hommes et ces femmes qui finalement ont compris que Jésus-Christ était là pour m'offrir la vie? La troisième chose que Paul parle dans le verset 21, c'est du règne de la vie. De la sorte, comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne.
règne avec justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. La grâce règne par la justice, c'est-à-dire par la parfaite justice de Christ. La grâce, par le don gratuit de la justice, mène au triomphe de la vie, et tout ceci par Jésus-Christ. Pas grâce à nous. On ne peut pas être sauvé par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie, mais c'est le don de Dieu. On peut venir tous les dimanches à l'église évangélique Le Phare et finir en enfer. Parce que venir ne change rien. C'est dur à dire pour un pasteur, hein. Ce qui change, c'est votre positionnement par rapport à Jésus-Christ, par rapport à la parole, par rapport à l'offre qu'il vous fait dimanche après dimanche, mardi après mardi, vendredi après vendredi, samedi après samedi. Et ma grâce, qu'est-ce que tu en fais? Oh écoute, je suis occupé. Plus tard, ou à la retraite, hein, tu reviendras, j'aurai du temps. Vous savez, les gens les plus occupés dans la vie, c'est les retraités. J'essaye d'avoir des rendez-vous avec des amis qui sont retraités. Écoute, pas cette semaine, je suis très occupé. Pas la semaine prochaine. Et on pourrait pas faire ça un soir, peut-être. Ils sont occupés, ils ont du temps, alors ils occupent le temps. Et tous ceux qui travaillent, ils trouvent le temps.
Mes amis, le verset 17, si par la faute d'un seul la mort a régné, par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Christ. Sommes-nous des gens qui régnons ? Ou des gens qui subissons? Sommes-nous des gens craintifs avec un Dieu tout petit? Un Dieu qu'on cache? Un Dieu dont on a honte? Un Dieu qui ne répond pas à nos prières? Un Dieu qui ne nous donne pas de bonnes choses? Moi je trouve incroyable, bientôt la liste des bénédictions à l'église Le Phare va dépasser largement la liste des sujets de prière. Je les cumule depuis le mois de janvier, hein. J'essaye de noter vos commentaires du dimanche. Et mes amis, on va bientôt avoir un livre, hein, de ce que Dieu fait dans la vie des gens qui viennent ici. Et de ceux qui n'y viennent plus aussi d'ailleurs. Il y a eu la catastrophe d'Adam, mais il y a eu l'obéissance spectaculaire de Christ. Et son obéissance spectaculaire impacte toute notre vie, n'est-ce pas? Elle change notre vie. Elle a changé notre destination. Elle a changé nos mentalités. Elle a changé la façon dont on regarde les choses. Si par la faute d'un seul, la mort a régné, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ? Avez-vous reçu cette grâce? Comment, quand j'écoute la parole de Dieu, comment, quand je lis la parole de Dieu, je me situe en face? Voilà ce que Dieu dit. Je suis en train de lire, ou de relire, l'histoire de Saül et de David. David, ce jeune gardien de moutons, qui est devenu le musicien de Saül, qui est devenu l'ennemi de Saül, l'ami intime de son fils, David qui a eu dans ses mains la vie de Saül, prêt à le tuer, parce que Dieu l'avait livré dans ses mains. Et David de dire, je ne toucherai pas à la vie de Saül. Et quand Saül a pris conscience des choses, David lui dit, mais écoute, si moi qui t'avais dans mes mains, je pouvais te tuer, comment se fait-il que toi tu me poursuis pour me tuer? Ah. Le diable, tous les jours, essaye de nous raconter les mêmes choses. Il essaye tous les jours de nous convaincre de ne pas obéir à Dieu. Il essaye de nous donner que notre liberté nous laisse choisir ce qu'on veut faire. Pensons à l'impact que nous avons. le sacrifice de Christ est bien plus important que la chute d'Adam, que la chute du diable. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, ça peut être chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Le recevrez-vous comme l'espérance, le trésor de notre vie? Dieu nous propose aujourd'hui de régner avec lui. Au pas d'être, quand je parle de règne, je ne parle pas d'un seul coup devenir des rois sur cette terre. Des hommes et des femmes qui d'un seul coup vont rouler sur l'or, vont avoir énormément d'argent, vont être des célébrités qu'on viendra servir à nos pieds. Mais au contraire, des hommes et des femmes qui vont servir l'humanité, comme Christ nous a servi. Des hommes et des femmes qui vont montrer autre chose que leur humanité, mais qui vont montrer la divinité de Jésus-Christ dans leur vie. La réalité de ce qu'il peut faire, du changement qu'il peut transformer dans une vie. Est-ce que nous sommes ces hommes et ces femmes, mes amis? On parle beaucoup du péché, n'est-ce pas? Mais moi j'aimerais parler de la vie ce matin. Nous sommes tous exposés au virus. Au virus qui nous tue, par la désobéissance d'un seul. Mais nous sommes aussi tous exposés aujourd'hui au traitement. Celui qui nous donne la vie. Mais non pas la vie pour que nous mourions à nouveau. La vie qui nous amène dans l'éternité. Alors j'aimerais juste vous demander ce matin. Jamais vous n'avez publié que vous étiez des chrétiens. Jamais peut-être vous n'avez saisi l'occasion de dire « Moi je suis toujours fils d'Adam, mais je veux être déclaré que je suis fils de Dieu. » Alors si vous ne l'avez jamais encore fait, vous savez, on va verser dans un moment de prière. C'est important. C'est important parce qu'on n'est pas en train d'établir ici un christianisme avec des rites et des idées. On essaie de construire quelque chose sur la Bible. Une réalité dans notre vie. Alors si ce matin, vous êtes ces hommes, ces femmes qui entendent le message depuis peut-être 10 ans, 15 ans, qui venez vous asseoir régulièrement dans ces chaises, et qui peut-être ce matin ont entendu cette phrase, c'est pas le fait de venir qui me sauve, et que peut-être même si je viens tous les dimanches, j'irai en enfer. Ne ratez pas l'occasion ce matin. Dieu vous l'offre. C'est son offre à lui. Vous ne pourrez pas l'acheter. Vous n'aurez jamais assez d'argent, vous n'aurez jamais assez de volonté, vous n'aurez jamais assez de force. Quand le peuple est venu voir Josué, il a dit « On obéira à Dieu ». Josué a dit quoi? Il a dit « Vous n'aurez pas la force. Vous avez la volonté, mais vous n'aurez pas la force. Vous allez vous écrouler. » Alors moi, ce matin, je veux juste vous offrir cette grâce, parce qu'elle est offerte par Dieu. Je ne suis que son canal. Hein. Ce n'est pas mes paroles, c'est ses mots. Romains, chapitre 5, c'est un livre, un chapitre extraordinaire. Qui nous permet de rentrer dans la grâce de Dieu. Alors on va juste baisser nos têtes. On ne regarde pas son voisin, on ne veut même pas savoir qui va lever la main. Qui va se décider aujourd'hui pour Jésus-Christ. Mais la Bible dit qu'il y a un grand jour de joie le jour où un pécheur se convertit. Mais mes amis, Dieu là-haut n'est pas surpris. Je vous rappelle aujourd'hui que notre nom est écrit dans ce livre dont j'ai la couverture. Alors mes amis, si vous n'êtes pas sûr que votre nom est écrit dans ce livre de vie, et qu'aujourd'hui vous voulez le proclamer, vous voulez devenir ces hommes et ces femmes qui allaient régner avec Christ, je vous invite juste là où vous êtes, non pas juste à lever la main, mais à vous déclarer, à vous lever, et à dire oui ce matin, je ne l'ai jamais fait. Mais ce matin, je veux déclarer que je prends cette vie que Dieu m'offre. Je cesse aujourd'hui d'être fils ou fille d'Adam pour devenir enfant de Dieu par sa puissance. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Un jeune, un moins jeune, un homme, une femme qui aimerait prendre cette main que Dieu lui donne. Quelqu'un qui cesse d'être ce qu'il est pour devenir ce que Dieu attend de lui. personne ne veut prendre cette main. J'en conclus que vous êtes tous fils et filles de Jésus-Christ, que vous n'avez pas de doute sur votre éternité. Si c'est la réalité, ça me réjouit. Si c'est pas la réalité, ça me désole. Mais je veux vous croire. Seigneur Jésus, merci. Merci pour cette réalité de l'Évangile qui nous rappelle que toi, tu as été cet homme supérieur, cet homme qui nous a montré l'obéissance. Le coût de l'obéissance, c'est l'impact de ton obéissance. Et je te remercie pour tous les hommes et toutes les femmes qu'il y a ce matin dans cette salle. Tu les connais. Je veux croire, parce que c'est leur témoignage ce matin, que leur nom est inscrit dans ton livre, dès avant la fondation du monde. Que tu les connais individuellement, tu sais là où ils sont. Tu connais leurs craintes, leurs difficultés. Nous avons pu te louer ce matin pour toutes les bénédictions que toi tu apportes. Et nous voulons à la fin de ce culte t'honorer pour avoir persévéré jusqu'au bout et pour avoir fait de nous tes enfants. Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est vraie de toute éternité. Et si nous avons découvert ce matin qu'elle existait même avant l'éternité, eh bien Seigneur, merci pour le pas que tu nous fais faire, de découvrir ces choses et de vivre avec. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je peux revenir.